Petit résumé, hier soir, le projet de Dieu depuis toujours de se créer un peuple qu'il puisse aimer et qui puisse l'aimer éternellement, qu'il puisse chérir, que nous puissions adorer le Seigneur. Ensuite, on a vu que tant que nous sommes dans ce monde, le Seigneur veut qu'on fasse partie d'une église locale de chrétiens et qui vont s'aider les uns les autres à progresser dans la connaissance de Dieu et qui vont le louer ensemble, qui vont chercher à témoigner de l'amour de Dieu dans leur entourage. Maintenant, cette troisième session sera des réflexions, je dirais, dans un domaine que j'aime beaucoup. L'interface entre l'enseignement biblique et la culture contemporaine. Parce qu'il faut que les deux se touchent quelque part. Et je crois qu'un des, peut-être, c'est moi qui le dis, un des plus gros défis que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nos églises ne soient pas comme des bulles dans lesquelles on rentre dans une autre culture, où on est bien pendant 2 heures, et qu'on ressort et que l'on doit vivre dans la culture environnante, mais on n'a pas appris à vivre dans cette culture environnante parce qu'on était dans notre culture à nous, dans notre petite bulle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Pour moi, c'est un grand défi. Alors, sur ce papier, j'ai mis une quinzaine de recommandations en quelque sorte. Donc, ça peut sembler un peu péremptoire à un certain moment, et je me suis permis en fait d'utiliser un papier que j'avais déjà, que j'utilise quand j'enseigne, notamment à l'Institut biblique de Genève, pour les étudiants en dernier cycle, et qui se préparent pour être pasteurs. Et donc, ce sont les réflexions de comment on va vivre toute cette partie biblique qu'on vient de voir de l'église locale dans notre troisième millénaire, selon le titre, les églises bibliques en phase avec le troisième millénaire. Donc, il y a 5 titres principaux. D'abord, le premier, c'est l'église, un lieu de découverte de notre véritable humanité. Donc, je vais revenir à cela un peu demain, dans ma quatrième et dernière intervention, notre humanité. Mais je vais dire ceci pour que l'on comprenne. J'anticipe un peu sur demain, mais ce n'est pas grave. Quand on se convertit, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, 2 choses. La première chose, c'est que par le sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est ça un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, ce n'est pas quelqu'un qui évite de faire du mal autour de lui, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, quelqu'un qui a une bonne vie. On espère que le chrétien a une bonne vie, mais ce n'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est, il sait qu'il est pécheur, il sait qu'il a besoin de la grâce de Dieu, il sait qu'un seul péché dans sa vie suffit pour qu'il soit coupable devant Dieu. Et notre problème à nous, je ne sais pas si c'est comme ça au Québec, mais en France, on a le baccalauréat, le bac. Et pour réussir le bac, il faut avoir la moyenne. Je ne sais pas si vous utilisez cette expression, il faut avoir la moyenne. Non? Vous dites ça au Québec? Non. Oui? Oui?
Mais la moyenne, nous, chez nous, c'est comme la moyenne de la classe. Enfin.
Ah, d'accord. Bon, pour nous, ça veut dire que, par exemple, il faut avoir globalement, dans toutes les matières, 10 sur 20 pour avoir son bac. La note de passage, si on veut.
100% ici, vous, ce serait
50%. OK. Combien?
120,
50%. D'accord. Alors, bon, en fait, ce qui se passe en France, c'est que quelqu'un qui a, par exemple, une mauvaise note dans une matière, il va dire, j'aurai une bonne note dans une autre matière, donc j'aurai quand même globalement la note qu'il faut pour réussir. Okay? Donc ça, c'est notre façon de voir. Et donc, parfois, on raisonne comme cela, en tant qu'être humain. On dit, ok, j'ai fait quelque chose de mal, je vais me racheter en faisant quelque chose de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que pour être bien devant Dieu, c'est 100% qu'il faut avoir. Et si on a fait une faute, on ne peut pas faire du super bien pour racheter la faute qu'on a faite, pour revenir à 100%. On ne peut pas. Donc, le chrétien est celui qui est réconcilié avec Dieu. Ok ? Par la grâce. Et la grâce, c'est quoi ? C'est tout ce que Dieu nous donne que nous ne méritons pas. Ça, c'est la conversion. Mais une deuxième partie de la conversion, qu'on oublie, et qu'on va voir surtout demain matin aussi, c'est que Dieu commence à travailler pour le rendre semblable à son Fils. Autrement dit, l'image de Dieu, on avait cité le premier soir, nous sommes créés à l'image de Dieu, cette image a été ternie, déformée par le péché, et Dieu veut le recréer pour que l'on soit de nouveau ce que Dieu veut. Ok ? Donc, autrement dit, quand on se convertit, on est réconcilié avec Dieu et on se met en chemin pour devenir vraiment humain. Donc, le chrétien, c'est le plus humain de tous les humains dans notre humanité. C'est ça que Dieu veut. Et donc, l'Église, c'est ma première information, c'est le lieu où nous pouvons vivre pleinement notre humanité, renouvelée à l'image de Jésus-Christ, dans les relations entre chrétiens. Parce que quand nous sommes réconciliés avec Dieu et quelqu'un d'autre est réconcilié avec Dieu, ensemble, on peut être réconciliés l'un avec l'autre et travailler ensemble en Christ pour le renouvellement de cette image. Mais il arrive parfois que l'on ne soit pas humain. Je vais raconter, je pense que Marie se souvient, c'était une fois, on était entre deux églises. On avait fini d'implanter une église, on avait quitté la ville de Nancy, on était venu sur Paris, et donc pendant tout un été, on n'avait pas encore commencé l'église, donc on est allé voir plein d'églises. Et franchement, l'accueil n'était pas très très bien assuré. On ne se sentait pas toujours très très bien accueilli dans ces églises. Qui c'est ces gens-là qui arrivent, je ne connais pas. Et puis, je pense que le pire, c'était une église, c'était avant l'époque de vidéoprojecteurs et tout ça, et donc chacun avait son livre de chant. On rentre dans cette église, on nous a donné un livre de chant, on se met assis à côté d'une femme, on s'est levé pour chanter, elle, pendant tout le culte, elle chantait à plein poumon, avec beaucoup de joie à ces chants. Et nous, on était là, on ne pouvait pas chanter, on n'avait pas de livre, on ne connaissait pas les paroles. Et à aucun moment, cette dame a pensé, « Ah, il y a deux personnes là qui n'ont pas de cantique, ils peuvent partager le mien, ou je peux aller chercher un autre pour eux, ils ne savent pas où c'est. » C'était inhumain. Et je pense que nous devons aussi parfois, dans nos églises, rechercher, est-ce que nous sommes inhumains ou est-ce qu'on est humains ? Parce que c'est ça que le Seigneur veut, que l'on soit humain, et que cette image de Jésus-Christ, qu'on puisse le vivre entièrement. Et donc, mon souhait, ma prière, c'est que des gens viennent dans notre église et qu'ils disent, enfin, toute ma vie, j'ai cherché des gens. Parce qu'on est vrai, on est honnête. Comme on aime dire dans le Gébu de France, on prend Dieu au sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Parce qu'on n'est que des vases de terre, selon 2 Corinthiens 4. On n'est pas grand-chose. On n'est pas des commerciaux de l'Évangile. On n'est pas là pour vendre Jésus-Christ. On est ce qu'on est. Et on prêche Jésus-Christ, on ne se prêche pas soi-même. Tout ça, c'est dans 2 Corinthiens 4. Donc, premier point. Deuxième point. L'Église, donc, est un lieu qui favorise la liberté de vivre la diversité humaine, car nous avons trouvé notre véritable identité en tant que rachetés de Jésus-Christ. Donc, on va pouvoir vivre la diversité. C'est important. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la question de l'identité est très importante. Dans notre vie, notre monde aujourd'hui, le nombre de fois où les gens peuvent chercher leur identité, qui suis-je ? Il faut que je devienne la personne que je suis. On peut prendre n'importe quelle revue, surtout les magazines féminins, on parle tout le temps qui suis-je, comment trouver son identité, enfin, etc. C'est un peu stressant, un peu angoissant quelque part. Mais cette recherche d'identité, il est facile de la mettre là où ça ne nous donne pas vraiment une identité, mais manque de vraie identité, on le fait. Bon, je donne deux, trois exemples, parce que ça semble un peu abstrait ce que je viens de dire. Admettons que, en France, des fois, il y a des régions, je pense à la Corse, par exemple, qui parfois voudraient être indépendants de la France. Donc, il ne faut pas avoir d'allusion au Canada dans ce que je vais dire. Je parle de la Corse, uniquement. Donc, il y a des gens qui vont trouver leur identité en disant « Je suis pour la Corse indépendante ». Ils vont donner leur vie pour ça. Parfois, ils vont très loin. Ils mettent des bombes, enfin, des choses comme ça. Ou bien, il y en a d'autres qui sont, par exemple, très féministes. Donc, il y a peut-être des raisons pour cela, certainement. Mais ça devient l'identité première. Et enfin, qu'est-ce que ça fait ? Ça divise parfois avec les autres qui n'ont pas pensé les mêmes idées. Alors que nous, en tant que chrétiens, on va dire notre identité première, c'est enfant de Dieu, c'est racheté, citoyen des cieux. Et après, on peut avoir des identités secondes, en deuxième place, la culture dont on est issu, par exemple, ou homme ou femme, ou... J'aimerais bien que la Corse soit autonome, mais ce n'est pas le plus important dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus important, notre vraie identité, c'est en Jésus. Et c'est pour cela qu'il y a un livre en vente, je ne sais pas si vous l'avez vu, écrit par deux des équipiers, des encadreurs, comme vous dites, de GBU France, avec le titre « Dis-moi qui tu suis ». Et je te dirai qui tu es. Qui est-ce qu'on suit ? On suit Jésus. Donc, et c'est ça notre identité. Je vais demander à Marie de me chercher. Et donc, dans ce cadre-là, c'est quoi une église ? Point 3. C'est un lieu d'échange où nous cherchons continuellement à approfondir le sens de l'affirmation « Jésus est le seul sauveur, Jésus est le seul Seigneur ». J'ai dit « échange ». Parce que ça veut dire quoi ? On va se parler. On ne va pas à l'église pour écouter les gens. Si c'est une bonne prédication, amen, c'est super. Mais même là, c'est bien à la fin du culte, d'aller voir un ami ou quelqu'un qu'on connaît un peu moins pour dire « Ah, c'était super ce qu'il a dit, mais comment tu as compris ça ? Comment tu vis ça ? Moi, j'ai du mal parfois à mon boulot à vivre ce qu'il dit. Et toi, comment tu le vis ? Que Jésus est le seul Seigneur, qu'il est le seul Sauveur ? Et, ou bien j'ai un voisin musulman, comment je vais réussir à faire passer l'idée que Jésus est le sauveur? Et toi, tu connais des personnes, des musulmans, comment tu fais? Donc, on est dans l'échange pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ou autour de la table, quand on a l'agape, de poser la question, est-ce que c'est un péché de télécharger illégalement tel ou tel? Waouh, Jésus le seul Seigneur, est-ce que ça fait partie, ça fait pas partie? Bon, c'est là, en tant que chrétien, on est en train d'apprendre ensemble, d'écouter les uns et les autres. Chercher comment on va être un meilleur disciple. Donc c'est l'échange, se parler les uns aux autres. C'est très très important. J'ai déjà mentionné deux fois cette expression dans le Nouveau Testament, les uns les autres. Alléluia, je pense en grec. Et souvent, c'est parler. Exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres. Parlez-vous les uns aux autres. Si on ne se parle pas en tant que chrétien, on ne va pas progresser en tant que disciple. Donc, avec notre identité de racheté, on va se parler, on va chercher dans le cadre de l'église locale, mais ça peut être aussi là, dans le cadre du GBU, hein, parce que comment être vraiment des personnes qui annoncent Jésus comme seul sauveur et seul Seigneur à la fac. Donc voilà, première chose, l'église c'est là où on apprend à vivre notre véritable humanité. Il y a tout au long de l'histoire des moments où ça ne s'est pas bien passé. Parfois tel ou tel responsable d'église devient trop autoritaire, ou bien on tombe dans les liturgies où on n'est pas participant. Mais une église, c'est un corps où nous devons vraiment être un lieu d'échange. On m'amène non seulement un verre, mais tout est un cru. Merci. Merci. Deuxième point, l'église est un lieu de cheminement vers la foi. Donc j'ai fait l'affirmation que l'église doit réserver un espace d'accueil pour les personnes en recherche afin de les accompagner vers la foi. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais je pense qu'un des plus grands changements que j'ai vu en France depuis que j'ai commencé le ministère, c'est qu'aujourd'hui, c'est moins remarquable que quelqu'un vienne tout simplement assister à un culte parce qu'il veut voir ce que nous pensons, ce que nous vivons en tant que chrétiens évangéliques. Ça ne se faisait absolument pas il y a 30 ans. Donc, il faut les accueillir. Ou bien, et des gens qui sont peut-être des amis, de membres d'église, qui commencent à venir régulièrement, donc il faut une sorte d'espace d'accueil dans l'église, où ils sont aimés, entourés, sans que l'on dise « tu es un chrétien » quand ils ne le sont pas. C'est extrêmement important donc de les accueillir parce que, comme je l'ai dit à Trois-Rivières, il me semble, aujourd'hui, les gens sont tellement loin de l'Évangile qu'il leur faut un certain temps pour découvrir. Ce n'est pas en le disant une seule fois. Parfois, les gens n'ont jamais vu quelqu'un prier. Donc, ils vont voir que nous l'on prie. Je pense à quelqu'un, une fille qui s'est convertie dans une de nos églises, pas où on est actuellement. Donc, et la première fois qu'il est venu à une étude biblique, je ne sais pas comment, mais il est tombé sur le verset « Saluez-vous les uns les autres avec un baiser fraternel ». Il y a toute une discussion, mais si on fait ça aujourd'hui, est-ce qu'on va nous prendre pour des homosexuels ? Enfin, il y avait toute une discussion là-dessus. Et à la fin de la réunion, pour poser des questions, alors qu'est-ce que tu as pensé ? Elle dit, je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai remarqué une chose, c'est que chez vous, quand vous discutez, vous écoutez les uns les autres. Ah, c'est bien, ça veut dire qu'on a vécu en tant qu'humain. C'est important, ce genre de ce que nous vivons, les gens vont regarder. Donc, on réserve cet espace d'accueil. Et même en amont, donc je vais encore plus loin maintenant, en amont, les chrétiens vont chercher à tisser des relations avec les autres. Pourquoi j'ai mis « les autres » entre guillemets ? Parce qu'il n'y a que deux expressions dans le Nouveau Testament pour les non-chrétiens. Parfois, on ne sait pas comment dire non-chrétien ou quoi. À un certain moment, au GBU de France, on disait « PEC », pas encore chrétien, PEC. Mais les deux expressions du Nouveau Testament, c'est les autres, par exemple dans le verset qui dit que nous ne nous attristons pas comme les autres, mais nous avons l'espérance, la consolation par le retour de Christ. Ou la deuxième expression, c'est ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu. Donc ce sont les deux expressions du Nouveau Testament. Donc ici, il ne s'agit pas de non-chrétiens. on tisse des relations en s'intéressant à eux, car le relationnel est le facteur le plus important dans l'évangélisation. Et les chiffres sont là, dans toutes sortes de sondages, en France et dans le monde entier, que 85% de personnes qui se convertissent, le facteur le plus important, c'est qu'ils connaissaient un chrétien, soit un voisin, un ami, un collègue de travail, ou quelqu'un de sa famille. Parce qu'il y a tellement de méfiance autour de nous, tellement de méfiance, dans le monde postmoderne. Si on affirme que Jésus est le seul sauveur, oh là, c'est intolérant. Vous voulez mettre des gens dans une secte ou quoi? C'est pas possible. Donc, je pense à un blog à l'université de Lille, dans le nord de la France, qui avait dit qu'ils avaient trouvé notre site. Ils ont trouvé notre confession de foi, que nous sommes appelés à nous repentir devant Dieu. Il dit, ah ben, c'est la seule chose qui manquait à notre panoplie. On connaissait pour les témoins de Jéhovah, les scientologues, les raéliens, mais maintenant, on a appris qu'il faut se repentir devant Dieu. Mais c'est n'importe quoi, parce que tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants, de toutes les époques, ça c'est un point commun, qu'on est pécheur, qu'on a besoin de reconnaître ça devant Dieu. C'est l'ignorance, la méfiance. Mais, comme je l'ai dit à Trois-Rivières, si je vois quelqu'un quand je conduis qui fait le stop, il y a peu de chances que je m'arrête, parce qu'on a tellement peur aujourd'hui. Mais si je vois mon voisin, je m'arrête et je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'on le connaît. Donc là, c'est vraiment important de savoir que l'évangélisation passe surtout par la relation que l'on peut construire avec quelqu'un. Notez que je n'ai pas dit l'amitié. Parce que l'amitié est très précieux. On n'est pas ami avec tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Les attentes, peut-être des uns et des autres, sont différentes. Je me souviens quand j'ai quitté mon emploi comme prof, y a un collègue qui est venu me voir pour dire qu'il regrettait beaucoup que je partais dans une autre ville parce que j'étais son meilleur ami. Et je tombais des nues, parce que pour moi, c'était quelqu'un que j'aimais bien. Des fois, on allait à un match de rugby ou de foot ensemble, samedi. Mais je voyais que pour lui, c'était important. Je crois qu'une amitié, on ne peut pas être ami avec tout le monde, mais c'est bien quand on a des amis. Mais on peut s'intéresser aux autres, on peut leur montrer notre intérêt, on peut les aimer, on peut établir une relation avec des gens. Et c'est ainsi qu'au bon moment, peut-être on peut les inviter à venir à une rencontre, on peut leur prêter un bouquin chrétien, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et en montant encore plus en amont, parce que j'ai commencé en disant que l'Église est un lieu de cheminement vers la foi, on accueille des gens, on tisse des relations, le point 6, là je parlais à des futurs pasteurs, il faut former les chrétiens pour qu'ils sachent témoigner à partir de l'actualité ou de la culture contemporaine avec à propos et de façon pertinente. Comment le faire? C'est quand on a quelque chose en commun. Et qu'est-ce qu'on a en commun? Parfois peu de choses. Parce qu'on a notre représentation mentale, comme j'ai dit tout à l'heure en tant que chrétien, où ils ont une autre. Mais il y a des choses que nous avons en commun, certains sujets d'actualité qui nous permettent de parler en tant que chrétien. Ou bien, dans la culture contemporaine, c'est souvent les films, le cinéma. C'est très important en France. La France est un des rares pays au monde où il y a de plus en plus de monde qui va au cinéma. Alors qu'au Québec, j'ai lu qu'il y avait 5% de moins au cinéma l'année dernière que l'année avant. Voilà. J'ai fait un peu de recherche avant de venir. Pour tout dire, j'ai lu dans le journal dans l'avion. C'est tout. Et quand on va voir un film et l'autre a vu le film, là on peut discuter. Et je dirais personnellement, bon, c'est vrai que j'ai fait des études littéraires et j'aime beaucoup ce qui est beaux-arts. Mais je dirais, il n'y a jamais eu vraiment une œuvre littéraire ou artistique de qualité qui n'aborde pas de vraies bonnes questions. Forcément. Forcément. Donc, je vais parler de ce film, Tree of Life, l'arbre de vie. Extraordinaire comme film. Pas un film chrétien, mais oh, ça ouvre des... J'ai utilisé dans le culte du soir que je fais dans mon église, qui est un peu un culte assez différent du matin, où on passe souvent des bouts de film, ça fait partie de notre culte, en fait. Et ce film nous permet d'ouvrir la parole sur des thèmes extraordinaires. La semaine dernière, avec Marie, on est allé voir le film Lincoln. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu, c'est le président américain. Personne. Ah si, waouh, un vrai frère. Parce que les non-chrétiens vont voir les films. Écoutez, je ne vous dis pas qu'il faut aller voir toutes les semaines, voir tous les films. Hein, on ne peut pas. On n'a pas tout notre temps. Et puis il y a certains films que je n'irai pas voir parce que j'estime que c'est peut-être trop d'immoralité ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Mais un minimum de savoir ce qui se passe, ce qui se dit dans le monde par rapport à des expositions, par rapport à la politique, etc. Sans rentrer dans la politique, il y a moyen parfois de donner un point de vue chrétien, vous montrer qu'on réfléchit. On réfléchit sur beaucoup de questions en tant que chrétien. Enfin, peut-être on réfléchit pas. On devrait réfléchir, en tout cas, sur ces points. Parce que c'est le moyen de pouvoir témoigner. Je pense toute ma carrière de pasteur. Une seule fois, quelqu'un que je ne connaissais pas a pris rendez-vous pour me voir, pour pratiquement demander à se convertir. C'était quelqu'un qui est venu pour dire qu'il avait conscience que quand il priait, il y avait quelque chose qui le séparait de Dieu, et c'était quoi? Donc là, oui, c'est le péché, j'ai expliqué, et puis il s'est converti. Une fois, en plus de 30 ans. Parce que la plupart du temps dans nos discussions, on n'en est pas là. Mais on peut dire des choses pertinentes à partir de là où se trouvent les non-chrétiens. Et c'est pour ça que moi, personnellement, quand je prêche, j'essaie toujours de dire, voilà, qu'est-ce que dit ce texte ? Je suis un fanatique de la prédication textuelle, donc je commence avec Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, enfin, etc. Mais il y a toujours des choses où on rebondit sur l'actualité sociétale, culturelle, etc. Parce que les chrétiens de mon église, ils vont passer quel pourcentage de leur vie à l'église ? Admettons... 2 heures un dimanche, 4 heures les jours ou 5 heures quand on a un agape, 2 heures en semaine, admettons au maximum 6 heures, sur le nombre d'heures dans la semaine, 24 fois 7, c'est trop compliqué pour ma petite tête, mais bon, enfin, c'est pas beaucoup. Alors que les chrétiens passent des heures et des heures et des heures avec des non-chrétiens à leur travail, parfois dans leur famille, si la famille n'est pas convertie. Qu'est-ce qu'on va dire? Quel lien apporter? Bon. Voilà, petit plaidoyer. Il faut savoir, en fait, ce qui se passe pour pouvoir former pour prendre les passerelles. Donc, j'aime beaucoup le mot passerelle parce que j'ai créé un film qui s'appelle Passerelle, qui est utilisé en France pour l'évangélisation. Troisième point. L'Église est un lieu de témoignage public et historique. Face à la méfiance vis-à-vis de l'inconnu, les gens ont besoin d'être rassurés pour que le seul obstacle à la conversion soit le scandale de la croix. Cela peut passer par l'enracinement historique de notre Église. Donc, j'interprète ça dans notre contexte français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des églises évangéliques s'appellent Église protestante évangélique 2, avec le nom du lieu. Donc on a ajouté le mot protestant, parce que la plupart des Français savent à peu près ce que c'est que le protestantisme, et donc on est protestant, ça va, mais on est protestant évangélique. Et tant qu'on s'appelait simplement Église évangélique, il y avait une très grande méfiance de la population. Donc, c'est pour ça que pratiquement toutes les dénominations vont dans ce sens. Est-ce que c'est nécessaire au Québec? Je ne sais pas. Mais l'enracinement est nécessaire. Et c'est pour cela que dans mon Église aussi, j'enseigne de temps en temps, et au GBU, par exemple, sur les pères de l'Église, sur la réforme, pour expliquer que nos églises, même si notre Église n'est là que depuis 40 ans, ou je ne sais pas quoi, ça fait partie d'une histoire qui dure 2000 ans. Cette histoire-là, il ne faut pas que ce soit uniquement l'affaire d'une dénomination comme l'Église catholique. Nous aussi, on a toute une histoire qui passe par là. Augustin, par exemple, Blaise Pascal, les réformateurs, plein de personnes au cours de l'histoire ont la même idée que nous, ont eu les mêmes idées que nous. On a un enracinement possible là qui permet aux gens de dire, voilà, ils ne sont pas sortis de nulle part, ce n'est pas la nouvelle secte qui arrive. Pour moi, c'est important. Point 8, par conséquence aussi, il faut tisser les relations avec les autorités civiles, avec le monde associatif et religieux de notre ville, afin d'assurer la visibilité du témoignage de l'Église dans son environnement. J'ai même ajouté que les relations publiques font partie de la guerre spirituelle évoquée dans 2 Corinthiens 10. C'est lorsque Paul dit qu'il renverse les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien sûr, ça va se passer principalement dans les études bibliques, dans les prédications, dans les partages. Mais quand on peut être publiquement visible, cela aide énormément. Maintenant, il faut voir, tout n'est pas possible partout. Dans une des villes où j'étais pasteur, le maire, qui était communiste d'ailleurs, demandait aux grandes religions d'apporter un petit discours devant le monument aux morts le 8 mai. Donc, le jour qui célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, chaque 8 mai, je faisais un petit discours avec l'imam, le rabbin, le curé et moi. Et chaque fois, je citais des versets bibliques, j'expliquais un peu ce que nous croyons. Et j'avais tout le conseil municipal devant moi, j'avais la députée Marie-Georges Buffet, qui était devenue chef du Parti communiste français, qui était ministre à un certain moment, à qui j'ai pu parler dans ce contexte. Et dans ce contexte, ça donnait une grande plausibilité à l'Église. On était présente dans le domaine, sur la place publique, quelque part. Et donc, il y a moyen de le faire. Une autre chose, quand la mairie organisait une journée de commerce équitable, l'Église demandait un stand pour vendre nos produits par l'association SEL. Enfin, en France, ça veut dire c'est le SEL est une association évangélique de commerce équitable. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire. Et même, je dirais, par exemple, une chose que j'ai faite dans deux des villes, j'ai un peu insisté auprès de la mairie que sur le site de la municipalité, qu'ils mettent un lien vers le site de notre église. Nous sommes un lieu public. Ils ont le droit de vérifier notre lieu public. Puisque nous sommes un lieu public, c'est normal que ce soit annoncé sur le site de la mairie. C'est autant de choses pour que l'on ne soit pas simplement caché quelque part, que l'on soit visible dans le domaine public. Assister, en tant que pasteur, je suis invité de temps en temps maintenant à certaines inaugurations, etc. Bon, il faut faire le sacrifice d'aller boire un petit apéro de temps en temps. Bon, c'est pas grave, on serre la main aux hommes politiques, non pas parce qu'on veut des compromis par rapport à ce qu'on croit, mais aux yeux des responsables, ils veulent savoir qui on est, si on joue le jeu, si on est là pour le bien de la société, et nous le sommes. Donc, c'est important. Et également, point 9, je vais pratiquement pas du tout insister d'ailleurs, l'Église doit tendre vers des structures en fonctionnement transparent, Je pense qu'il est normal que les gens qui viennent à l'église puissent savoir qui sont les responsables, comment ça se passe au niveau des comptes, etc. Donc, à un certain moment, dans une des églises, j'ai mis une charte qui n'était pas notre confession de foi, mais une charte de nous nous engageons à bien accueillir vos enfants, bien accueillir ceux qui ont un handicap physique, bien accueillir, enfin, etc., etc. Donc, voilà, c'était notre engagement. Point 10, notre spiritualité. Je dirais, la méthode d'évangélisation du Nouveau Testament, surtout, c'est le vécu de l'Église, où l'amour de Christ est présent, Jean 13, verset... Vous n'écoutiez pas tout à l'heure, Jean 13, 35. Vous allez partir avec ce verset dans la tête quand même. Jean 13, 35. C'est ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens 3, verset 3, Paul dit que le tract qui distribuait, c'était l'Église. Vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Et il dit un petit peu plus loin, connu et lu de tous les hommes, c'est le verset 2. Qu'est-ce que les hommes lisent? L'Église, notre vécu. Comment on vit ensemble, la réalité de nos relations. Ça, c'est la méthode d'évangélisation la plus importante dans le Nouveau Testament, le relationnel, individuel et collectif. Nos cultes doivent tenir compte de la présence de non-chrétiens, mais notre spiritualité doit rester authentique à leur présence. On doit tenir compte. C'est, je crois que la première personne qui m'a mis un peu la puce à l'oreille pour ça, c'est Tim Keller de New York, qui disait que si on utilise un vocabulaire que les gens ne comprennent pas, ils vont pas rester. Donc, il faut que l'on explique les choses. Et même s'il n'y a pas de non-chrétiens, il faut commencer à prendre cette habitude pour que le jour où il y a des non-chrétiens qui arrivent, ils ont un peu l'habitude. Il faut expliquer les choses. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais enfin, c'est un pasteur qui me l'a raconté. C'était un non-chrétien qui est venu au culte et il est allé le voir après pour dire « qu'est-ce que vous avez pensé lors de notre culte ?» Il dit « c'était vraiment très bien, ça m'a beaucoup plu, mais je ne sais pas pourquoi vous avez chanté un chant contre Dieu. » Contre Dieu, mais quoi il s'agit? Donc ils ont cherché ensemble, c'était Abba Père. Abba les capitalistes, Abba, enfin, etc. Si on n'explique pas ce que Abba veut dire Père en hébreu, le non-chrétien ne va pas comprendre. Et j'ai un ami pasteur maintenant, il a adapté d'ailleurs les chants sur le vidéoprojecteur, chaque mot qui ne semble pas tout à fait clair, il a un petit astérisque avec l'explication du mot en bas de page. Je trouve ça intéressant. Parce que tout le monde ne connaît pas le sens de tous les mots. Bon, sans pouvoir le dire, c'était là. Les gens peuvent le lire, ils peuvent le comprendre. Donc, nous devons tenir compte du fait que certains non-chrétiens sont là, sans renier du tout ce que nous sommes, pour rester authentique. Et comme ça, je pense que c'est un très bon témoignage. D'ailleurs, le point 12 est un peu provoque, que le plus grand obstacle à l'évangélisation, c'est lorsque les chrétiens y voient une activité, plutôt qu'une vie spirituelle, une relation avec Dieu à partager avec les autres. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que si on dit l'évangélisation, c'est uniquement activité, on peut très facilement, d'une part, se donner bonne conscience, parce qu'on dit, voilà, j'ai fait l'évangélisation cette semaine, maintenant, j'ai plus besoin d'en faire. Ou bien, de l'autre côté, on oublie que même quand on va vers les autres, il faut surtout les voir comme des êtres humains qui ont besoin de cette relation avec Dieu, et donc de pouvoir partager ce que je vis, ma spiritualité en quelque sorte, avec eux. C'est, comme quelqu'un dit, c'est les initiés à la vraie spiritualité biblique. Un autre terme pour dire évangéliser. Par contre, le point 13 me semble extrêmement important. On a aussi parlé à Trois-Rivières. Ce qui favorise le témoignage des chrétiens, c'est lorsqu'ils sont contents d'être chrétiens et convaincus qu'il n'y a rien de meilleur au monde. Là, on parle parce que le cœur est rempli de Jésus, du salut, de notre espérance éternelle. Voilà, on va en parler, quand c'est vraiment important, parce qu'on est content, on est convaincu qu'il n'y a rien de meilleur. Et puis, j'ai ajouté deux autres points, d'abord le point 14, que nos églises doivent accorder une place à la créativité artistique dans l'annonce de l'Évangile. Cette créativité est plus que la musique, ça peut être le théâtre, ça peut être la peinture, ça peut être la façon même de prêcher, ou d'écrire, ou je ne sais pas quoi, être créatif dans la façon de dire les choses. À un certain moment, dans l'église où j'étais avant, j'ai demandé à une fille jébusienne qui était peintre de me faire toute une fresque. Quelqu'un veut le voir, je crois que voilà. Un exemple avec moi. En réalité, ça faisait 3 mètres de long, qui traçait toute l'histoire du monde depuis la création, la venue de Jésus jusqu'à l'Apocalypse sur 3 mètres, avec des choses un peu symboliques, mais qu'on avait vraiment la possibilité d'expliquer. On explique bien l'Évangile avec ça. Donc, ça faisait partie aussi donc de notre témoignage. Et le dernier point, je ne sais pas si ça se fait ici, mais ça commence à se faire en France. L'Église peut offrir des choix entre différents types de cultes et des réunions à des horaires différents. Donc un choix qui correspond aux aspirations légitimes des membres, voire des non-chrétiens. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans notre Église, on a commencé un culte du soir. Le dimanche. On n'a pas forcément les mêmes personnes que le culte du matin, mais c'est la même église. C'est comme un cégep où on a différentes classes, mais c'est le même cégep. Et à un certain moment, on a la même identité, le même logo, enfin les mêmes locaux, mais ce sont deux groupes pas complètement différents, parce que des personnes du culte du soir peuvent venir à la même étude biblique en semaine. Les personnes du culte du matin. Mais ça correspond à un moment de la journée où d'autres étaient plus disponibles que ceux qui venaient le matin. Et la même chose pour l'évangélisation. Est-ce qu'on le fait aux horaires qui correspondent? J'ai entendu parler d'une église à Londres qui faisait des réunions d'évangélisation le dimanche soir à 23h. Il faut préciser, c'est une église, il y avait beaucoup de Chinois. Et les gens qui visaient, c'était ceux qui travaillaient dans les restaurants chinois et qui quittaient leur travail à cette heure-là. Et donc, c'est le bon moment pour aller à une étude biblique. Donc là, cette variété au sein d'une même église est tout à fait possible, je pense. Et je le recommanderais. Voilà. Il faut que je m'arrête. Parce qu'on va, manger. Donc voilà, j'ai essayé de faire le lien un peu entre le fond biblique et la culture où nous nous trouvons aujourd'hui pour dire mais comment on va vivre une église locale dans la culture aujourd'hui. Il faut réfléchir, il faut chercher comment on peut faire. Voilà, ça correspond bien, je pense, à notre culture française. J'espère que ça peut vous donner aussi des pistes pour le Québec.